Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui termine cette semaine consacrée à l'aveu par une émission sur les procès staliniens avec Galia Ackermann. Il n'y a peut-être pas de plus grande énigme anthropologico-politique, pourrait-on dire, que l'aveu dans les procès staliniens. Comment expliquer qu'un pouvoir totalitaire ait à ce point besoin du consentement des sujets qu'il supplicie? Et comment expliquer ensuite que des citoyens, des communistes en l'occurrence, s'y prêtent quasiment sans aucune résistance? Jamais le lien entre le pouvoir, l'aveu et la subjectivation qui a obsédé, on pourrait-on dire, Michel Foucault, jamais ce lien n'a été porté à un tel niveau d'incandescence. Et je vous propose donc d'explorer, pour terminer, cette énigme en compagnie de Galia Ackermann. Galia Ackermann est essayiste et traductrice littéraire, spécialiste de la Russie. On lui doit déjà un certain nombre d'articles et d'ouvrages, et elle va publier dans quelques jours aux éditions Premier Parallèle La guerre sacrée de Poutine. Bonsoir Galia Ackermann.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, il y a tant à dire sur l'aveu et sur les procès staliniens que je vous propose qu'on commence par une chronologie. La fin de la Révolution, la guerre civile, des premiers procès commencent, la première obsession de l'ennemi intérieur apparaît, mais l'aveu n'y occupe pas une grande place, Galia Ackermann.
L'aveu n'occupe aucune place après la Révolution et dans les années de la guerre civile et après la guerre civile, quand le pouvoir soviétique se consolide. En fait, c'est le jugement du sens révolutionnaire ou contre-révolutionnaire qui prévaut à ce moment-là. On arrête déjà par catégorie de classe. On arrête des bourgeois, on arrête les anciens officiers de l'armée tsariste, les gendarmes, les gens de l'Okhranka, la police secrète tsariste, les popes. On arrête aussi les gens de différents partis, les membres de différents partis qui, les uns ont soutenu la révolution, d'autres ne l'ont pas soutenu, comme les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les cadets, les démocrates constitutionnels, etc. Et très souvent, on ne les juge pas. Le jugement n'est même pas nécessaire. Pour certains, on les fusille tout simplement parce que Lénine a ordonné qu'il faut fusiller tant de bourgeois pour simplement montrer au peuple qui est le maître.
Il donne des quotas.
Il donne déjà des quotas à ce moment-là. Il y a des notes de Lénine absolument horribles où il dit, voilà, fusiller tant de popes ou tant de bourgeois. Très souvent, ce sont des exécutions, exécutions ou pendaisons.
Mais publiques, alors.
Publiques. Et on ne cache absolument pas, c'est la justice révolutionnaire. Maintenant, le premier code pénal, il date seulement de 22 et ensuite avec des corrections,
c'est ça.
23. Et même à cette époque, vous savez, pour arrêter quelqu'un et l'envoyer dans un camp, le procès n'est qu'une formalité. J'ai étudié, par exemple, la biographie d'un socialiste révolutionnaire, c'est-à-dire le parti qui a pris le côté des bolcheviks, qui a soutenu le coup d'État d'octobre et qui a fait partie d'abord du gouvernement soviétique. Mais les socialistes révolutionnaires, très exactement de gauche, parce qu'ils sont scindés entre eux, ils voulaient vraiment le pouvoir pour le peuple. Et il y avait l'idée que les soviets doivent vraiment gérer l'économie et la politique du pays, alors que les bolcheviks voulaient la dictature du parti.
Ils voulaient jusqu'au bout la révolution.
Alors, voilà, les socialistes révolutionnaires, en quelque sorte, ont été à gauche des bolcheviks. Mais en même temps, ils n'étaient pas aussi sanguinaires. Et donc, j'ai suivi certaines affaires des gens arrêtés dès l'instauration du pouvoir soviétique, par exemple en Ukraine en 1920. À Kharkov, qui était alors la capitale de la Nouvelle-Ukraine. On arrête des SR, c'est l'abréviation des socialistes révolutionnaires. parce que, tout simplement, il faut leur empêcher de mener une propagande dans des usines lors des élections des soviets, pour qu'ils ne puissent pas faire passer leur candidat au sein des soviets.
Donc il y a une finalité, il y a une finalité politique.
Absolument, il y a une finalité politique. Donc, si les vrais ennemis, on les envoie assez tôt dans des camps de concentration, c'est-à-dire les camps de concentration qui ont commencé à exister pratiquement très peu de temps après la Révolution, si on les fusille très facilement, pour les amis, soi-disant pour les anciens compagnons de route, on les met en prison, mais on les oblige pas de travailler. On est relativement clément parce que à cette époque-là, il est important simplement de les isoler. Donc parfois il y a des accusations un peu fantaisistes, parfois il y en a pas, mais il n'y a même ni vrai procès, ni vraie accusation, sauf, le terme anti-soviétique apparaît très très tôt. Et donc, activité anti-soviétique, ça peut être tout simplement la propagande parmi les ouvriers pour se faire représenter au sein d'un soviet.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la guerre n'est pas très loin. D'abord, la révolution, bien sûr, et puis la guerre civile, quand même, qui a été épouvantable. Et donc, les exécutions, cette violence politique pour laquelle les procès semblent assez secondaires, d'après ce que vous dites, reste orienté à un clivage fondamental pour ou contre les catégories sociales, les classes, et elle ne réclame pas d'aveu. C'est ça qui est surprenant.
Non, mais quel peut être l'aveu? Voyez, je vous donne un exemple très concret. Donc, un de ses essais, socialiste révolutionnaire ukrainien qui s'appelait Yakov Braun, on l'a accusé de répandre de fausses rumeurs dans une usine parce qu'il racontait lors d'une réunion que les ouvriers d'une autre usine faisaient une grève italienne à cause de malnutrition parce qu'ils étaient presque pas payés, etc., etc. Ça a été considéré comme un agissement contre-révolutionnaire. Lui, il dit oui, je l'ai dit. Mais c'est pas contre-révolutionnaire, simplement, bon, ben... J'ai dit la vérité. Donc, c'est une appréciation qui peut être comme ci ou comme ça, et en fait, c'est la Tchéka qui décide ce qui est contre-révolutionnaire, ce qui ne l'est pas.
Alors, ça va changer dans les années 30, lorsqu'il n'y a plus véritablement d'ennemis aux portes, il y a moins de classes. Les classes ont été pas mal élimées. Alors, je laisse de côté les koulaks, bien sûr, d'Ukraine, mais il y a... Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaissent des procès dont le but est de faire avouer.
Oui, mais avant qu'on en arrive là, il faut quand même dire encore quelques mots, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, par exemple, pendant la NEP, qui était une sorte de relâchement économique, etc., toute cette lutte contre les ennemis de classe et les ennemis de la Révolution ne s'est pas arrêtée. On a continué, notamment, à persécuter pratiquement les membres de tous les partis qui ont existé dans la période entre les deux révolutions et certaines pendant la période tsariste. Ils étaient déjà dans les années 20, ils passaient tous d'une prison à l'autre, d'une condamnation à l'autre, d'une relégation à l'autre. Ils étaient déjà pratiquement complètement éliminés de la scène politique.
Parce qu'il fallait construire le peuple 1. Il fallait construire le peuple soviétique avec un P majuscule qui ne supporte aucune division.
Qui ne supporte aucune division où il n'y a pas de pluralité d'avis. Donc tout avis qui était un peu contraire à la ligne du parti, même au sein du parti bolchevique communiste, était de moins en moins toléré. Maintenant, les grands procès ont commencé avant les fameux procès de 36-38.
Et la grande terreur, la vague des procès après l'affaire Kirov.
Je pense que Staline s'est rendu compte que après toutes les persécutions auxquelles ont eu droit les koulaks, c'est-à-dire pratiquement toute la paysannerie qui savait un peu travailler, après le Holodomor, après la grande famine qui a sévi en 32-33 et qui a fait des millions de victimes, après une industrialisation forcée où les ouvriers ont travaillé dans de très mauvaises conditions, ils étaient mal payés, ils vivaient dans des conditions du quotidien absolument horribles. Il y avait beaucoup de mécontentement. Et je pense que Staline, peut-être, n'aurait pas pu rester au pouvoir, et il y avait des velléités aussi au sein de ses proches de le remplacer, tout simplement parce qu'il y avait un mécontentement qui était assez massif, sourd, mais massif. Et donc, c'est pour ça que les grandes purges ont eu lieu. Il y a peut-être encore un facteur, celui de la guerre qui s'approchait.
Oui, et puis ce sentiment que le communisme avait beaucoup promis, et qu'on peut faire attendre un an, deux ans, trois ans, mais qu'au bout de dix ans d'existence du régime soviétique, les résultats n'étant pas là, cette condition ouvrière étant terrible, il fallait trouver un échappatoire, une sortie.
Bien sûr, d'autant plus que, vous savez, sous la NEP, tant bien que mal, les gens vivaient moins mal qu'après la fin de la NEP. Là, c'était souvent la vraie famine, en tout cas, les gens ne mangeaient pas assez. Tout l'effort a été donné à l'industrialisation forcée, dans un rythme insoutenable. Et même quand il y avait un manque de blé criant, on vendait du blé à l'étranger pour avoir des devises pour acheter des machines-outils, etc., etc. C'est-à-dire que Staline menait cette industrialisation.
Il brutalisait l'économie.
Brutalisait l'économie et brutalisait la population. Et donc, pour faire taire toutes les voies possibles dissidentes, il n'a pas trouvé de meilleur moyen que la terreur. Mais... Je crois qu'il y croyait en partie, qu'il y avait quelque chose comme une auto-hypnose, c'est-à-dire il y avait peut-être une part de ses craintes qui était réelle et une part où il s'auto-excitait en quelque sorte.
Oui, puis il y avait cette constitution paranoïaque quand même, qui tenait à sa personne même, de Staline.
Bien sûr. Et donc là, on commence, même avant les grandes purges telles quelles, je pense que le premier grand procès, il y avait auparavant d'autres procès, par exemple des ingénieurs, etc. Mais le premier grand procès de la crème du parti, Zinoviev et Kamenev, qui étaient les proches de Lénine, etc., ça, c'était le premier exemple flagrant de cette nouvelle justice. Quand on a, là on revient à la question de l'aveu, qui n'a pas préoccupé la justice tant que ça. D'ailleurs,
jusque dans les années 30, oui.
Je fais peut-être une déviation, mais on a vu, j'ai étudié par exemple les matériaux de quelques procès qui parfois ne s'étaient pas soldés par devenir publics, parce que justement les enquêteurs n'ont pas pu rassembler suffisamment de données. Mais là, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait pas obtenir tellement des aveux que des dépositions contre autres personnes. L'aveu, c'est pas seulement de dire « je suis coupable ». Il fallait dire aussi qui est coupable avec toi, d'où tu tiens ceci. Et
c'est pour comme créer ça une sorte de contagion de la dénonciation.
Voilà, c'est-à-dire pour étayer les preuves d'un grand réseau. Parce qu'il fallait construire des réseaux d'espions, de saboteurs, d'ennemis à la solde des trotskistes, etc. Mais au début des années 30, il y avait déjà un peu l'utilisation de la torture, mais très modérément. Par exemple, on empêchait la personne de dormir.
De brutalité physique.
Voilà, on lui donnait pas des médicaments alors que c'était quelqu'un de malade et que bien sûr sans ces médicaments à long terme et il serait décédé, etc.
On trouve ça dans les pratiques contemporaines.
Bien sûr. Mais et très souvent ça donnait assez de résultats pour construire une accusation qui tenait. Mais on n'obligeait pas les gens d'inventer. La grande nouveauté, je dirais une nouveauté révolutionnaire dans le monde de la justice.
Et dramatiquement révolutionnaire.
Oui, c'était d'inventer de toute pièce un scénario parfaitement à 100% fantaisiste. Et par exemple, avec Zinoviev et Kamenev, le scénario était que, ensemble avec des trotskistes, parce qu'il y avait encore quelques trotskistes qui étaient restés en Union soviétique, qui n'ont pas encore été éliminés, l'idée était que donc ce bloc du parti, ensemble avec les trotskistes, allait assassiner le camarade Staline en personne et d'autres dirigeants du parti, et prendre le pouvoir suprême, c'est-à-dire faire un coup d'État.
Qui écrivait ce scénario? Parce que là, on est vraiment dans un scénario, d'après ce que vous dites, Galia Ackermann.
Je pense que les scénarios dans les grands procès ont été écrits personnellement par Staline. C'était les idées un peu paranoïaque de Staline, qui pensait sincèrement, il avait très peur de Trotsky. Trotsky ne représentait plus une menace réelle, il était dans l'immigration, très loin, mais bon, il a quand même envoyé finalement un assassin pour le tuer, malgré toute la protection.
Exact. Il va y arriver.
Et il y est arrivé. Mais
je voudrais sur Kamenev et Zinoviev, vous avez traduit un article de Nikita Petrov, je suis content de dire son nom à la radio, parce que c'est fait partie de ces innombrables historiens de l'association Mémorial qui font un travail formidable et qui font un travail minutieux, un véritable travail d'historien. Et ce que dit Nikita Petrov, il raconte une histoire, un tout petit détail. Staline demande à ce qu'on lui rapporte les balles qu'on a trouvées dans le corps de Zinoviev et de Kamenev. C'est-à-dire des balles personnalisées qui lui rapportent en quelque sorte la preuve, et qui va garder par devers lui la preuve qu'ils ont bien été tués. C'est vraiment un comportement très très particulier, Galia Ackermann.
Staline était un grand sadique et il donnait personnellement des ordres. C'est-à-dire, les contours du drame étaient dessinés par lui. C'est lui aussi qui corrigeait personnellement des communiqués publics. Parfois des discours que devait par exemple prononcer Wyszynski ou quelqu'un d'autre, etc. C'est-à-dire, tous ces procès ont été personnellement suivis de près par Staline. Et c'est Staline qui a donné l'ordre d'utiliser la torture. Et donc,
qui est un véritable passage, qui marque une étape tout à fait importante dans l'histoire des procès soviétiques.
Absolument, parce que jusque-là, la torture aussi a été utilisée, mais pas systématiquement et pas avec autant de brutalité. C'est-à-dire, la brutalité, on connaît ça depuis longtemps, parce que Solzhenitsyn l'a décrit en détail dans l'archipel du Goulag, et depuis, on a encore découvert après la perestroïka, pendant la perestroïka même, des descriptions dans les lettres, par exemple, parfois les lettres d'adieu que les accusés écrivaient à leurs proches.
Celle de Boukharine qui
était quand même consignée dans leur dossier, c'est-à-dire dès qu'on a eu l'accès au dossier, on a appris quelle était la réalité, mais pour les accusés importants, c'était souvent aussi Staline personnellement qui donnait l'ordre, il faut le battre davantage, il faut qu'il avoue ceci ou cela. C'est-à-dire, il savait précisément qu'est-ce qu'il voulait obtenir.
Mais comment vous expliquez qu'un homme du calibre de Boukharine ou du calibre de Zinoviev ou de Kamenev, comment est-ce qu'ils peuvent avouer alors qu'ils sont pas nés de la dernière pluie?
Il y avait un danger parce que, bien sûr, sous la torture, on peut faire avouer n'importe quoi. Il y a très, très peu de gens qui peuvent résister à des tortures d'une extrême cruauté. Mais ensuite, il y avait un danger que les gens, au procès, disent « Non, tout cela a été
inventé,
j'ai avoué sous la torture. » Or, ces grands procès, ils étaient ouverts aussi aux correspondants étrangers, etc., etc. Et il y avait des sommités comme Feuchtwanger, par exemple, le grand écrivain, et qui est accru parce que il voyait devant lui des gens qui avouaient soi-disant.
Donc c'était la machine de vérité du procès, pour continuer de parler comme Foucault, la forme de vérité du procès qui devait convaincre beaucoup plus d'ailleurs l'opinion internationale que l'opinion russe de la réalité de ces menaces.
Des deux. Mais déjà, il fallait préparer l'opinion publique. Et par exemple, Staline, pour Zinoviev et Kamenev, mais aussi après pour Boukharine, il a envoyé une lettre qui a été distribuée, par exemple, dans les régions aux chefs des organisations du Parti communiste local, c'est-à-dire avant même le procès. Ils étaient déjà prévenus qu'il s'agit de bandits, de meurtriers présumés qui étaient ensemble avec bloc de gauche, bloc de droite du parti, ensemble avec les trotskistes, ensemble avec des renseignements étrangers, etc., etc. Et ça a été encore amplifié pendant le procès parce que Wyszynski, le procureur, avait un style extrêmement éloquent et d'une violence insupportable, qui donc insultait les accusés en les traitant de chiens enragés, etc., etc. Mais maintenant, voilà, votre question, Antoine Garapon, c'est qu'est-ce qui les a fait avouer ?
Oui, oui, parce
dans
que
dans beaucoup de cas, eh bien. Rappelons qu'il n'y a pas eu beaucoup de procès publics. C'était juste, vous savez, la vitrine de cette machine de masse qui a été enclenchée pour tuer dans un délai très court. Il y a à peu près 700 000 Obama qui ont été tués en une année. En une année. Et beaucoup plus qui ont été envoyés au goulag. Mais comment les pour par exemple Zinoviev et Kamenev,
on leur a menti aussi. Ils avaient demandé.
On leur a menti, c'est-à-dire on leur a expliqué que bien sûr ils étaient coupables devant le parti pour leur déviationnisme, mais que l'important pour ce procès c'était pas eux. C'est-à-dire, il devait dénoncer les agissements des agents de Trotsky pour dire qu'ils étaient prêts, ensemble avec les agents de Trotsky, d'assassiner Staline et les autres dirigeants soviétiques.
Personnellement, c'était à une menace.
De donner si des ordres et même, je crois qu'on dise que l'idée était qu'il l'assassine non pas en cachette quelque part dans un couloir du Kremlin, mais par exemple pendant le congrès du parti. Et comment on les a persuadés ? Eh bien, on leur a promis la vie sauve. On leur a expliqué, et ça a demandé, parce qu'on les a beaucoup battus, mais ils n'ont pas cédé tout de suite.
On leur a menti aussi, c'est-à-dire vous aurez la vie sauve.
Voilà, on leur a expliqué que s'ils avouaient que c'était en fait une opération de communication pour nuire à Trotsky à travers le monde. Parce que qu'est-ce qui pouvait discréditer le plus Trotsky, c'est qu'il était impliqué avec d'autres membres du Politburo à des agissements visant à produire un coup d'État. C'est-à-dire, c'est pour diminuer l'influence de Trotsky qu'on accusait déjà à cette époque d'être proche des fascistes italiens et des nazis.
Alors, vous parlez de Solzhenitsyn, parce que dans l'archipel du Goulag, il dit une phrase, comme souvent extrêmement puissante, et qui donne un peu une réponse à notre question, qui est longuement commentée par Claude Lefort. Solzhenitsyn dit, comment ça fonctionnait ? Alors, je cite, « Toujours le même leitmotiv invincible repris en variation à travers combien de procès déjà. Vous êtes comme nous des communistes. Comment donc avez-vous pu vous fourvoyer et vous dresser contre nous ? Repentez-vous, car vous et nous, ensemble, c'est nous. » Fin de citation. C'est-à-dire, Solzhenitsyn dit, et ce que vous venez de nous dire d'ailleurs, c'est « Faites ça pour le parti, faites ça parce que nous sommes tous communistes. »
Faites ça pour le parti et faites ça pour enfoncer Trotsky. Et vous aurez la vie sauve. Et donc, paraît-il, il y a des mémoires qui prétendent que justement Zinoviev et Kamenev ont exigé que non seulement on leur garantisse la vie sauve, mais que d'autres vieux bolcheviks, or Staline, qui changeait complètement l'orientation du pays, voulaient se débarrasser de cette vieille garde léniniste, parce que, entre autres, elle était internationaliste, alors que maintenant le cours devenait nationaliste. Donc, ils ont demandé à Staline qu'il leur donne des assurances que le Politburo au complet leur promette la vie sauve. Et alors, ils avoueront ce qu'on demande. Eh bien, ils se sont retrouvés devant Staline et Vorochilov. Et quand ils ont demandé où sont tous les autres, on leur a dit « c'est nous la commission qui décide de votre sort ». Et Staline leur a fait toute une harangue en disant « oui, vous avouez ça, je vous promets, nous vous promettons que vous aurez la vie sauve ». Et ensuite, au procès, bien sûr, Vyshinsky demande pour ses chiens enragés qu'ils soient fusillés. Mais c'est comme ça qu'ils ont accepté.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec vous, Galia Ackermann. Vous avez décidé de nous faire entendre l'hymne russe.
C'est pas l'hymne russe, c'est l'hymne du parti bolchevique, dont la musique a été ensuite un peu réarrangée pour devenir l'hymne de l'Union soviétique pendant la guerre, parce que jusque-là, l'hymne de la Russie soviétique, c'était l'international.
Et alors, qu'est-ce qu'il disait cette...
Eh bien, je vais pas vous traduire ça en entier, c'est en fait un hymne à la gloire de Staline. Et il y a là un passage que je trouve intéressant pour notre discussion, Antoine Garapon. Donc, la race pourrie de traîtres lâches, tu balais furieusement de ton chemin. Tu es la fierté du peuple, tu es la sagesse du peuple, tu es le cœur du peuple, tu es la conscience du peuple. Bien sûr, tu, c'est Staline. Tout est dit.
Oui, et on retrouve cette référence envahissante, totalitaire au peuple, qui, pour ce Solzhenitsyn, encore une fois repris par Claude Lefort, nous livre l'énigme de ce sacrifice. C'était pensé par les gens qui acceptaient d'avouer, c'était pensé comme un sacrifice. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que j'ai lu dans cet article de Petrov quelque chose qui confirme cela, c'est que beaucoup de gens, alors il parle des bourreaux, hein, de ceux qui ont exécuté des milliers et des milliers de personnes la nuit dans des cours secrètes de la Tchéka. Et alors, certains crient « Vive Staline !» juste avant d'être exécuté. Et ça perturbait les bourreaux, tellement qu'il y a eu des notes en disant « Non, il faut les empêcher de dire ça, parce que ça complique tout, ça brouille. » C'était pénible aux bourreaux, cette déclaration de dévotion à Staline.
Le culte de Staline s'est développé déjà complètement au début des années 30, quand il devient vraiment le seul décideur du sort de son peuple et de ses élites. Et beaucoup de gens croyaient, en fait, c'était l'influence de la propagande, que Staline n'était pas au courant des atrocités qui se faisaient en son nom. Qu'il était innocent et qu'il suffisait peut-être de lui écrire. C'est pour ça qu'il y a tant de vieux bolcheviks qui ont essayé de transmettre des courriers à Staline, parce qu'ils pensaient que lui seul, comme la légende du bon tsar.
Oui, c'est ça. Oui. Et quand on voit, par exemple, cet immense récit Vie et destin de Vassili Grossman, ça se termine un peu comme ça. Ça se termine sur un contact direct avec Staline et un contact qui va s'avérer positif. Mais donc l'aveu judiciaire est une sorte d'aveu amoureux, on pourrait dire, Galia Ackermann. Amoureux d'amour à Staline, comme à sa personne même.
Je ne pense pas que cela fût vrai pour tout le monde, parce que parmi les gens qui ont été arrêtés, il y avait certainement aussi pas mal de gens qui ont été critiques, réellement critiques de Staline, comme par exemple le poète Mandelstam. Qui n'était pas bien sûr un contre-révolutionnaire, mais qui n'y croyait absolument pas.
Il y avait aussi tous ceux qui y passaient, qu'on va retrouver ça au Cambodge d'ailleurs, c'est un trait commun, c'est-à-dire que beaucoup de personnes étaient exécutés étaient d'anciens exécuteurs, étaient d'anciens tortionnaires. Il y a une scène absolument insoutenable où Yejov, au moment d'exécuter, en torturant les personnes qui étaient souvent des cadres du parti, prend à côté de lui, je crois que c'est Chigalev, pour lui montrer ce qui va se passer. Chigalev qui était son copain, qui était un ami. Et juste avant d'exécuter lui-même Chibalev. Donc, c'est des scènes absolument insoutenables où toutes les relations, tout semble sans dessus-dessous.
Oui, et c'est vrai que les exécuteurs, à son tour, étaient exécutés. Mais encore une fois, je pense, pour revenir à la relation amoureuse, c'est que ce n'était pas vrai, au moins pour une partie des exécutés. Ça. C'était tout simplement la douleur était insoutenable. Okay. Et bien sûr, répéter, ça ne pouvait produire que l'aveu. Il existe de très rares cas quand l'aveu n'était pas possible à extirper.
C'est pour ça qu'il faut se méfier de ne pas surinterpréter ses aveux, Galia Ackermann.
Non, mais ces aveux, vous savez, c'était des schémas absolument fantaisistes. On exigeait de créer un réseau d'espions.
Avec les Japonais, beaucoup.
Beaucoup les Japonais, mais aussi les Allemands, les Britanniques et tutti quanti. Et donc, ça n'avait aucune réalité sauf dans le cerveau enflammé de Staline.
Alors, passons un peu les décennies parce que finalement, l'aveu n'existe pas avant les années 30. Il y a les vagues de procès staliniens, il y a celle aussi des années 50. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a toujours une répression qui s'abat sur les dissidents, mais ils ne cherchent plus l'aveu. L'aveu a disparu de la répression dans les années, à partir des années 50-60, Galia Ackermann.
Vous savez, moi, je me suis toujours posé d'ailleurs la question pourquoi, si l'aveu pouvait sembler nécessaire dans les procès publics qui étaient destinés justement à l'opinion publique, pourquoi elle exigeait l'aveu dans la période stalinienne de tout le monde ?
Bien sûr.
Quel était l'intérêt ? Parce que ensuite, le sort a été généralement scellé d'avance. Ensuite, on soumettait simplement les listes à la Troïka. Et le lendemain, ces gens étaient fusillés. Quel était l'intérêt d'avoir des aveux ? Mais je crois que, bizarrement, M. Wyszynski, qui était donc le procureur pendant toute cette période extrêmement tragique, était très procédurier. Comme il n'y avait rien sauf l'aveu pour étayer la culpabilité, il leur fallait quand même avoir quelque chose. Et ce quelque chose, dans des accusations totalement fantaisistes, ça ne pouvait être que l'aveu. Il ne fabriquait pas les preuves.
Oui.
Ils ne fabriquaient pas, par exemple, ils auraient pu faire de faux écrits.
Mais n'étudiez pas ça, il n'y avait pas de fausses preuves.
Non, il n'y avait aucune preuve.
Alors c'est intéressant pour les juristes, parce que ça veut dire qu'il y a un rôle d'air tout à fait perverti, mais néanmoins réel, de la procédure. C'était la procédure qui faisait tenir le fond, en quelque sorte, et l'aveu était la clé de voûte de cette utilisation, encore une fois, pervertie de la procédure.
Voilà. Et maintenant, si on passe à la période post-stalinienne, Khrushchev, Brejnev, etc., on voit que les procès politiques se font rares, c'est-à-dire les gens qui sont en disgrâce sont souvent limogés, comme l'a été Khrushchev lui-même, mais il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné, etc. Il a été envoyé à sa datcha. Et donc, la persécution politique s'abat exclusivement sur les dissidents. Et ça commence, il y a eu aussi des petits groupes, même pendant la guerre, après la guerre. C'est comme ça d'ailleurs que Solzhenitsyn a été condamné. Mais ce qu'on appelle les dissidents, ça commence avec le procès de Sinyavsky et Daniel, qui étaient deux écrivains soviétiques qui, clandestinement, écrivaient et envoyaient en Occident des œuvres satiriques.
Et ça, ils l'avaient fait. C'était des
sous pseudonyme. Et donc, on les a jugés pour des activités portant atteinte à la renommée de l'État soviétique. Mais ils ont quand même écrit ces œuvres et ils les ont quand même envoyées à l'étranger.
Le fait était là.
Et même pour ça, ça c'était 65, mais par exemple, en 58, quand Pasternak a eu le prix Nobel, il a envoyé donc Dr. Gilles Jivago à l'étranger, ça a été publié à l'étranger. Il a été vilipendé, surtout après l'obtention du prix Nobel, mais il n'a pas été jugé. C'est-à-dire que pour les dissidents, c'était quand même des gens qui écrivaient des tracts, qui distribuaient des informations, etc.
C'était les prémices d'une véritable opposition, quand même. Là.
C'était les prémices d'une véritable opposition. C'était des gens qui réellement faisaient quelque chose. C'est juste la définition, est-ce que c'était antisoviétique ou non. Parce que beaucoup de ces gens se réclamaient socialistes et voulaient simplement améliorer l'État soviétique. Il n'était pas très réformable, mais il ne le savait pas.
Mais alors, comme quoi, c'est une histoire extrêmement longue en Russie, c'est que, en Russie, dans l'Union soviétique des années 20, aujourd'hui, ça n'a pas complètement disparu, Galia Ackerman, cette manière de se servir des procès comme une arme contre les dissidents, comme une arme d'épuration, comme une arme de discipline.
Aujourd'hui, c'est une situation qui est encore différente par rapport, par exemple, à la période soviétique quand il y avait des dissidents. Parce que, il existait un article, article 58, activité anti-soviétique. C'est-à-dire, si, le KGB, qui dictait sa loi, décider qu'il faut emprisonner un tel, on le jugeait, mais le procès n'était pas à huis clos. L'accusé avait un avocat qui ne jouait aucun rôle, mais il y avait un avocat. Et les forfaits que peut-être nous ne qualifierons pas de dignes de plusieurs années de prison ou d'un internement psychiatrique, mais les délits du point de vue soviétique étaient là. Maintenant, la Russie n'est plus un État communiste. Formellement, il y a la liberté d'opinion, de réunion, etc. Mais en réalité, il y a quand même des mesures qui sont prises contre toute opposition à Poutine. Et je peux citer quelques exemples. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que l'aveu, de nouveau, ne joue aucun rôle, parce que, bien sûr, ces gens ne se reconnaissent pas coupables, mais on falsifie les preuves.
Oui.
Ce qu'on ne faisait pas à l'époque soviétique.
Il n'y avait pas de falsification.
Pas en tout cas, quelque part, mais...
Ce que j'ai trouvé dans le procès Khodorkovsky, qui a été quand même un grand procès, qui a déterminé un passage. J'ai trouvé dans le second procès, celui qui a eu lieu il y a quelques années, je parle sous votre contrôle, Galia Ackerman, une sorte d'arrogance du faux procès. C'est-à-dire de dire, je fais un procès dans le fond farfelu, avec des accusations qui sont à l'évidence, qui ne sont même pas possibles, parce que, mais je le fais pour montrer au reste du monde, message absolument inverse à celui du procès stalinien, pour montrer que je méprise les formes de la justice et que je fais ce que je veux.
Dans le procès Khodorkovsky, le plus important était, c'est que les accusations étaient fondées souvent sur des décrets ou des lois qui ont été adoptées plus tard que les agissements qui ont eu lieu. Par exemple, Khodorkovsky a été accusé d'évasion fiscale parce que il installait ses bureaux dans des régions qui jouissaient d'un régime spécial de fiscalité ou qu'il employait des handicapés pour aussi avoir des privilèges fiscaux. Mais à l'époque, c'était une pratique courante. Tout le monde le faisait. Et après le coup, on l'a donc accusé. C'est pas vraiment falsifiant. Viens les preuves. Maintenant, pour certaines personnes qui ont été accusées dans le cadre de la même affaire, il y avait aussi des accusations, par exemple, contre Leonid Nevzlin, comme quoi il a donné l'ordre d'assassiner quelqu'un.
Je pense à l'affaire d'une jeune Tchétchène qui se trouve en France aujourd'hui, et je pense à lui parce que vous avez traduit le livre sur cette affaire, qui est quand même tout à fait édifiante, dans le sens où on a forgé des preuves, on a fabriqué des preuves, de façon à... Alors là, c'est vraiment un faux procès, alors, pour le coup.
Absolument. donc, dans le cas de Khodorkovsky, c'était un mélange. Il y a peut-être aussi des, pas tellement des preuves, mais des dépositions, de fausses dépositions qui ont été ajoutées. Il y avait une utilisation rétroactive de lois qui n'étaient pas encore en vigueur, etc. Mais ce n'était pas la fabrication de preuves telles quelles. Maintenant, on connaît plusieurs cas, dont notamment de cette jeune Tchétchène, Zahra Mortazaliyeva, qui est maintenant réfugiée politique en France et qui, à 20 ans, a été arrêtée parce que les autorités ont décidé de faire quelques procès exemplaires après des prises d'otages et
contre les Tchétchènes. Il fallait montrer qu'il y avait des terroristes tchétchènes à Moscou qui menaçaient l'ordre public.
Absolument. Parfois, c'était même, vous savez, dans le cas de cette Zahra, je ne suis pas sûre que la décision fut prise dans un haut lieu. Il y avait un Tchétchène qui voulait assurer sa propre promotion au sein des services de sécurité de Moscou. Et lui
qui a fabriqué
la chose. Et donc, Zahra, elle travaille dans une agence d'assurance. Un jour, on l'arrête. On l'embarque au poste de la police. On lui dit de passer dans la pièce voisine pour prendre ses empreintes. On lui dit que c'est un banal contrôle de sécurité. Quand elle revient, la pièce est remplie par toutes sortes de collaborateurs de la milice et du FSB. Et on lui dit d'ouvrir son sac. Elle ouvre le sac. Il se trouve un petit paquet qui pouvait être un savon, par exemple, dans un emballage de papier.
En fait, c'est un explosif.
Quoi, et en fait, on lui dit que c'est un explosif. Oui. Personne n'a jamais vu ce que c'était. Oui. Elle a été condamnée à 8 ans et demi de camp.
Qu'elle a purgé
de A à Z. Oui. Et ensuite, par miracle, elle a pu obtenir...
C'est ça. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On n'aurait pas vu ça sur la période soviétique. On n'aurait pas vu ça sous Staline.
Non. Non, parce que sous Staline, les aveux suffisaient, donc c'était pas la peine de fabriquer quelque chose.
C'est ça.
Pendant les périodes post-staliniennes, il y avait une sorte de légalité, encore une fois, légalité tordue parce que les gens étaient accusés de quelque chose qui, pour nous, ne constitue pas de délit, mais qui rentrait dans la définition du code pénal soviétique. Mais maintenant, par exemple, je me permets de vous raconter peut-être, Antoine Garapon, l'un des derniers procès de ce genre, c'est un collaborateur du Mémorial en Carélie. Donc le territoire qui avait appartenu à la Finlande.
Association Mémoriale qui a rempli un rôle absolument extraordinaire pour connaître toutes les histoires dont on parle aujourd'hui.
Absolument. Et donc il a retrouvé des fosses communes où dans chacune de ces deux fosses ont été fusillées en 1937 plus de 1000 personnes, pendant la période de ces grandes purges. Y compris la fine fleur de l'intelligence ukrainienne, qu'on appelle aujourd'hui la génération des fusillés. Lui-même.
On fait pression sur lui et on va lui coller un procès.
Lui-même a été accusé de pédophilie parce qu'on a retrouvé dans son ordinateur quelques photos de sa fille adoptive, une jeune enfant nue, mais des photos qu'il n'a montrées à personne, qu'il n'a diffusées nulle part, etc., etc. Donc un père a bien droit de photographier son enfant. Et quand cela n'a pas marché, il a été condamné pour avoir détenu un vieux fusil rouillé. Mais parallèlement, on a aussi ordonné donc à la société militaro-patriotique de prouver que ces fosses n'étaient pas les fusillés soviétiques.
Daniel Ackermann, parce que cette émission touche à son terme, est-ce que dans le fond, ce qu'il y a de commun entre les années 20 et maintenant, c'est cette volonté, cette prétention du pouvoir russe ou soviétique d'être un maître absolu de la vérité?
Bien sûr, et c'est surtout la nécessité de contenir toute contestation.
Merci beaucoup, Galia Ackermann. Matière à penser, Galia Ackermann, Joséphine Lampreya, Valérie Lavalard, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je laisse mon siège à René Friedman. Bonsoir.